Au revoir, Augustin.
Amis téléspectateurs,
Allez, 9h41, démarrage en 30 de l'instant M.
Merci d'être avec nous ce soir.
C'est ça quand on est en direct.
Attaquant vedette des années 90, gravé dans l'histoire du PSG, mais aussi des clubs anglais, Newcastle et Tottenham. Mon invité a été sélectionné 17 fois en équipe de France, maillot avec lequel il entretint une histoire médiatique mouvementée, faite de célébrations et de conflits. Il fut le joueur le plus médiatisé de l'avant 98, une médiatisation qu'il a aussi construite en dehors des stades, à coups de publicité notamment. Mon invité est mort, mon invité a ressuscité et maintenant il fait de la télé avec un plaisir non dissimulé. Bonjour David Ginola.
Quelle belle introduction.
Bah c'est ça, il y a Jésus, Lazare et David Ginola. Bah, c'est très biblique.
Bon. Bah, je suis très content de faire partie de cette liste.
C'est bientôt le week-end comme dirait Augustin, mais c'est bientôt Noël aussi. Allez, demain soir, finale sur M6 de la France à un incroyable talent. Pur divertissement, bon enfant. Manifestement, l'ancien footballeur prend son pied.
L'Instant M, c'est aussi en vidéo sur franceinter.fr.
Alors manifestement, gros changement du côté de chez nos confrères d'Europe 1. Je vous livre cela tout chaud. Jean-Pierre Elkabbach, qui est pourtant une des voix historiques d'Europe 1, va perdre son interview quotidienne à la rentrée dès le mois de janvier. Et il semblerait que Fabien Namias soit aussi écarté du poste de directeur général. J'y reviendrai si j'en sais un petit peu plus à la fin de l'émission. Et puis on suivra ça les jours à venir. Maintenant, actu anglaise. Alors, la Grande-Bretagne, c'est le hasard complet. Vraiment, David Ginola, si ce sont les médias anglais qui attirent notre attention ce matin, la famille Murdoch parviendra-t-elle enfin à mettre la main sur Sky, dont elle ne détient qu'une partie? L'empire audiovisuel des Murdoch s'appelle la 21st Century Fox. Il propose 22 milliards d'euros pour acheter Sky. Sky, c'est le géant de la télévision payante européenne en Grande-Bretagne, mais aussi en Allemagne, en Autriche, en Italie. Rappelons que chez vous, David Ginola, vous habitez toujours en Angleterre?
Absolument.
Voilà, que chez vous, côté foot, Sky a subi la concurrence acharnée de BT, c'est l'ancien British Telecom pour lequel vous avez travaillé.
BT Sport.
BT Sport, voilà, c'était la chaîne sport. Voilà. À eux deux d'ailleurs, ça fait un chèque record de 7 milliards d'euros pour 3 saisons. Bref, on sent que Sky a été pas mal secoué. Se revendront-ils complètement et définitivement au Murdoch? Affaire à suivre. Encore la Grande-Bretagne, une actu qui fera écho à notre émission de vendredi sur la pub dans les programmes pour enfants. Eh bien, de l'autre côté de la Manche, donc toujours chez David Ginola, où le taux d'obésité infantile a explosé. J'ai regardé les chiffres ce matin, David Ginola, 32% des 2-15 ans sont en surpoids. C'est vraiment là ce qu'on appelle un fléau sanitaire. Eh bien, sachez que tous les produits alimentaires trop gras, trop salés, trop sucrés ciblant les enfants sont désormais interdits de publicité et pas seulement à la télé, parce que ça, c'est déjà le cas, mais aussi sur internet et dans la presse à compter du 1er juillet prochain.
L'Instant M avec Sonia De Villers.
Voilà, David Ginola, vous fûtes Jésus, vous fûtes aussi une crevette obsédée par le ménage dans le monde de Nemo.
Oui,
la bleue.
Oui, j'arrive.
Il vient de la mer.
Oh, bonne mère. Et voilà le travail. Zou.
Voilà, ça c'était juste une blague et c'était pour
vous
commencer.
Vous avez aimé Sonia l'accent de...
Bah, vous le faites très très bien, en même temps vous venez de là, non?
J'en ai un petit quand même.
C'est ça.
J'en ai un léger.
Vous l'avez gardé. Et oui. Ce qui est assez drôle, c'est qu'on l'entend presque quand vous parlez anglais, mais on va vous entendre parler anglais dans un instant. Parce que je le disais, Ginola et les médias, c'est une longue histoire qui est faite de triomphes, de coups de gueule, d'incompréhensions. Je vous avais été sans doute le joueur français le plus médiatique d'avant 98. Vous êtes de la génération Papin et Cantona, si on veut en mettre deux sur le même tableau. Je vous rappelle quand même quelques campagne de pub dans laquelle vous tourniez dans les années 90.
I'm a footballer, not a movie star.
I just want to feel good about the way I look.
L'Oréal has created new LV Nature Vitamin Shampoo.
Pascal, deux cartes noires.
Carte noire, what's that?
In France, it's our favorite coffee.
In terms of beauty, everybody is different. You have to wake up in the morning and be positive and okay, it could be better, but it's okay, I'm fine.
And it's all worked out beautifully for Ginola.
Voilà, vous avez été l'un des premiers. Non, oui. Mais vraiment, aujourd'hui, ça paraît d'une banalité absolument incroyable.
Sonia, ça fait drôle d'écouter tout ça.
Ça fait drôle d'écouter tout ça.
J'ai l'impression que c'est dans une autre vie.
C'était une autre vie. Quoique, parce qu'en réalité, la boucle, elle est en train de se boucler. C'est ce qu'on va montrer pendant cette interview. Mais vous avez été un pionnier à l'époque. Vous aviez posé nu pour Mario Testino. Nu, complètement nu.
Ah,
aujourd'hui,
oui.
Avec les dieux du stade, etc. Ça s'est totalement banalisé. C'est devenu même l'argument marketing.
Dans les années 90, ça choquait pas mal.
Ça choquait, exactement. Et la pub aussi, en fait, vous étiez le premier à construire une notoriété médiatique en dehors des terrains. C'était perçu comment à ce moment-là ?
Très mal.
Très mal ?
Très mal, et c'est aussi à cause de ça, je dirais, que il y a eu cet acharnement. C'est-à-dire qu'on n'était pas, à l'époque, pour le cumul des mandats, un joueur de football devait s'intéresser qu'au football. Et il n'avait absolument pas la possibilité. Il avait la possibilité, mais il ne devait pas sortir des clous, et c'était... C'était pour moi très compliqué d'arriver à expliquer non seulement aux gens du métier, mais aux gens tout court, qu'on pouvait jouer au football, qu'on pouvait avoir une vie extra-sportive et faire des choses complètement incroyables parce qu'on avait des possibilités et des demandes. Parce que c'est pas moi qui allais, bien évidemment, taper aux portes des gens en leur disant « je veux faire une pub pour le shampoing ».
Et du coup, vous pensez qu'avec le recul, cette notoriété médiatique-là, elle vous a à la fois porté, évidemment.
Mais desservi.
Et en même temps, elle vous a pénalisé. C'est-à-dire qu'on s'en souvient peut-être pas aujourd'hui, mais l'avant 98, c'était une affaire qui empoisonnait l'équipe de France. Ginola en équipe de France, ou pas Ginola en équipe de France, il y a eu une brouille avec Gérard Rouillet, la presse s'est acharnée contre vous, vous avez été une sorte de bouc émissaire après un match raté. En même temps, vous preniez le micro souvent pour pousser vos coups de gueule. Est-ce que le fait d'avoir été une égérie publicitaire, ça vous a étiqueté individualiste, le mec qui pense qu'à sa gueule et à sa belle gueule?
C'est ce que les gens ont bien voulu penser. Mais les gens qui me connaissent vraiment, et les amis, et les proches, mes coéquipiers, savent très bien que dans un vestiaire, j'ai toujours privilégié le groupe par rapport aux individualités et à ma personne. Que les opportunités que j'ai eues à côté... Une carrière de footballeur, à l'époque, il faut bien se rendre compte. C'est que c'est pas comme aujourd'hui. Un garçon, aujourd'hui, peut rentrer dans le milieu du football à 18-19 ans, gagner beaucoup d'argent à 18-19 ans et ressortir de ce métier à 35 ans. Donc la longévité est beaucoup plus importante. Alors qu'à l'époque, on commençait véritablement à gagner très bien notre vie vers 27-28 ans. Et il restait 4-5 ans vraiment à maximiser. Vraiment. Et donc, c'est vrai que les opportunités qui se présentaient, c'était de se dire, voilà, ma carrière, c'est...
Elle est courte.
10-15 ans. 10-15 ans, je vais arrêter à 35 ans, je vais être un jeune homme, il va falloir que je pense à une reconversion. Il faut que je la prépare. La préparation, c'est... J'ai toujours donné la priorité au football. C'est-à-dire que le football était ma priorité à 100%. Chaque fois que j'avais un contrat avec une marque, je leur disais, tout ce que vous allez me demander, il faut absolument pas que ça empiète sur ma vie professionnelle.
Et comment vous les avez vus arriver derrière vous, les Beckham, beaucoup plus tard, les Ronaldo, etc.
J'ai trouvé ça tout à fait normal. Pour
c'est
moi,
ça,
c'était
mais vous aviez
normal.
Ouvert la voie en réalité.
Je veux pas dire que j'ai ouvert la voie parce que d'autres comme moi ont goûté au plaisir de justement travailler avec des superbes marques. On a écouté, voilà, que ce soit avec des marques prestigieuses, que ce soit avec Cerruti, que ce soit avec... J'ai travaillé véritablement avec des gens très intéressants déjà. Et puis de sortir des sentiers battus, de son métier, ça vous ouvre aussi des perspectives. C'est-à-dire que quand vous revenez dans le vestiaire et sur un terrain, vous n'avez pas les œillères, vous avez ouvert votre vie, votre intellect à d'autres choses, et finalement, ça sert, ça ne dessert pas ce que vous faites sur le terrain. Vous prenez conscience que finalement, vous aimez encore plus faire ce que vous faites, c'est-à-dire être professionnel de football.
Justement, professionnel de football, et puis il y a eu aussi votre vie médiatique autour du football, mais là, consacrée au football cathodique, le but d'Eder.
Pour que Gal commence à bien au second tempo, bateu, à nous gol, à nous gol, à nous gol, à nous gol,
Alors, vous prenez en charge sur M6, au moment de l'Euro, les émissions d'avant et d'après match, avec le succès qu'on sait, le carton d'audience qu'M6 a fait autour de l'Euro. Moi, ça m'intéresse de parler avec vous de ces émissions d'après match, parce qu'elles sont de plus en plus nombreuses, et on sent bien que leur tonalité, elle a changé, David Ginola. On sent bien qu'en 98, il y avait une sorte de célébration Black Blanc Beurre. On sent bien aujourd'hui que vos confrères, journalistes sportifs, Pascal Praud, Riolo, et aussi sur l'équipe, ont politisé divisé beaucoup, beaucoup les commentaires d'après-match. On l'a vu avec l'affaire Benzema, on l'a vu en fait depuis tout ce qui a secoué l'équipe de France. Comment vous les regardez aujourd'hui, ces after-match, beaucoup plus sociétaux et beaucoup plus politiques?
Déjà, premièrement, j'ai jamais voulu m'inspirer
de
qui que ce soit et de quoi que ce soit par rapport à ce que je devais faire. Quand on m'a proposé de présenter l'Euro sur M6, je me suis toujours inscrit sur ma politique, c'est-à-dire que je n'ai jamais tiré sur l'ambulance. Je n'ai jamais, parce que je suis footballeur. Je suis pas là pour avoir la langue de bois. Je l'ai jamais eu. Sauf que pour moi, il y a un principe fondamental.
Bah, c'est les Pascal Praud, les Riolo, ils en font pas beaucoup de la langue
non,
de bois.
Mais
ils y vont cash.
Oui, d'accord. Mais des fois, pour moi, ça dépasse. Ça va un peu trop loin. C'est-à-dire que il faut rester quand même très logique dans ce qu'on fait. Le football est un divertissement, c'est un spectacle. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, par rapport à tout ça, c'est où on fait des émissions politiques sur le football, où on parle de football. Il ne faut pas, à un moment donné, mélanger. Il faut avoir des créneaux bien précis. Moi, pendant l'Euro, il était hors de question que je fasse de la politique. C'était juste pour donner du plaisir aux gens et continuer à donner du plaisir aux gens par rapport au match qu'ils venaient de voir.
Ouais.
C'est-à-dire alimenter et agrémenter une émission avec des choses positives, dire ce qui ne va pas, bien évidemment.
Mais sur le terrain sportif.
Mais uniquement sur le terrain sportif. Chacun a son créneau. Certains sont très bons dans ce qu'ils font, que ce soit les Pierre Ménès ou les Pascal Praud ou Riolo, les personnes que vous avez mentionnées. Moi, je m'inscris d'une manière différente.
Alors, quand vous faisiez The Match of the Day sur Canal+, hein, vous, pour le coup, vous accompagniez les diffusions de football anglais sur Canal+, il y avait quand même un précédent qui s'appelait Gary Lineker, qui fait The Match of the Day sur la BBC.
Ce n'est pas le même format.
C'est pas le même format, mais il aurait pu vous inspirer. Moi, il y a un truc qui m'a vraiment marqué chez Gary Lineker l'année dernière, c'est qu'il a pris le micro et qu'il a eu le courage de défendre les 20 mineurs migrants que l'Angleterre a accepté sur son sol et qu'il les a défendus au micro et que pour ça, il s'est fait rouler dans la boue, par The Sun, par exemple, qui a demandé sa démission à la BBC.
Ce sont, à mon avis, ce qui est important, c'est tout ce qui est prise de position. À partir du moment où on a une voix, on va prendre position politiquement. Et c'est vrai qu'un garçon comme Gary Lineker, il a été vu, et je sais, ça a été vraiment...
Hyper violent.
Oui, très très violent en Angleterre. C'est parce que on s'attend pas à ce qu'un footballeur, n'a jamais, ou un ex, ou un footballeur actuel n'a jamais. Vous n'entendez jamais un footballeur parler de politique sur des problèmes bien précis. Jamais. On ne demande jamais l'avis à un footballeur parce que derrière, il y a un service de presse qui, justement, fait barrage à toutes ces questions qui peuvent amener des problèmes dans le vestiaire et dans les clubs. Et je trouve ça illogique, parce qu'aujourd'hui, on est en train de dire, oui, le footballeur n'a pas de crédibilité, justement, au niveau des gens, il n'en a pas suffisamment, parce qu'il ne défend pas de point de vue. Aujourd'hui, il a un discours qui est plat, voilà, on va parler de football, uniquement de tactique, et de ce qu'on a pensé d'un match, mais ce qu'on aimerait savoir, c'est qu'est-ce qui se cache? Qu'est-ce qui se cache derrière juste un footballeur? Est-ce qu'il y a une intelligence? Est-ce qu'il y a une pensée? Est-ce qu'il y a une voix? Est-ce qu'il y a quelque chose de fondamental à dire sur les problèmes sociétaux?
Là, on a un ancien footballeur qui n'a pas du tout l'intention qu'on l'empêche de dire ce qu'il pense. Je vous propose d'écouter un extrait de La France a un incroyable talent. C'est Kamel Ouali, membre du jury, qui vous remet à sa place.
Je ne suis pas d'accord avec vous, parce que tu as absolument raison, Eric.
Merci,
donner
David.
4 oui à un garçon qui n'est pas de cette planète. Et là, vous avez un frère et une sœur qui sont de notre planète.
C'est quoi cet argument?
David, excuse-nous, mais t'es pas jury.
Je sais, mais j'ai le droit de dire ce que je pense. Et je le ferai, que ça vous plaise ou non.
Que ça vous plaise ou non. Alors voilà, du David Ginola dans le texte, c'est-à-dire sans texte, en impro, total, à l'animation de La France un incroyable talent, 11e saison. Vous êtes d'un naturel et d'une décontraction, c'est moi, je suis moi, en gros, c'est ça?
Exactement. Et je n'ai absolument. On m'a dit, il faut que tu regardes ça, il faut que tu regardes ça. J'ai dit, j'ai pas forcément envie de m'imprégner de choses qui vont me perturber, mais qui vont me mettre des choses dans la tête qui sont pas forcément moi. Aujourd'hui, je pense que les gens sont très contents de m'avoir, moi, et uniquement moi, et pas l'image de quelqu'un ou ce que je me suis créé comme personnage. Il n'y a pas de personnage. Le plus beau compliment qu'on puisse me faire aujourd'hui, c'est les gens qui me connaissent très bien. Et quand ils me voient dans l'émission, ils me disent « David, c'est toi. »
C'est ça.
C'est pas quelqu'un d'autre.
Et vous tutoyez les candidats, et vous remontez le moral des petits enfants qui se sont fait éliminer,
mais
et vous boostez
ça.
Tout le monde dans les vestiaires. Et est-ce que vous, évidemment, parce que ce qui est drôle en plus, et ça aussi c'est le hasard, c'est que c'est une émission anglaise, Britain's Got Talent, et vous la regardiez.
Good accent, by the way.
Thank you very much. Et vous la regardiez en Angleterre?
Mais ça m'est arrivé de les regarder.
Parce que là, pour le coup, vous êtes très différent du tandem d'animateurs anglais qui sont à la manœuvre en Angleterre.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que, en fait, c'est une émission qui est dans le monde entier, que ce soit Britain's Got Talent ou America's Got Talent.
Ça, ouais,
voilà, ils ont des animateurs différents. Et c'est vrai que les Anglais, quand ils sont venus voir les émissions en France, ont été assez surpris de ce que je pouvais proposer. Et cette surprise s'est transformée en « mais c'est ce qu'on veut ». Il faut qu'il y ait beaucoup plus d'empathie avec les candidats, parce que les candidats qui arrivent stressés, vraiment sous pression, pour entrer sur cette croix rouge face à 4 membres de jury et 800 personnes dans le public, il faut quand même les soutenir, il faut les épauler, il faut les amener. Et moi, je ressens ça. J'ai été dans ces périodes-là où j'ai transpiré énormément pour arriver à être professionnel de football. Je le ressens et j'ai ressenti le travail derrière tous ces candidats qui arrivent pour présenter quelque chose. Alors certains, c'est de la manière la plus ludique possible, mais
là,
certains...
Vous entendez, vous reconnaissez ? On vient de passer un petit... morceau d'Aliénette. Parce qu'il y a quand même Aliénette, elle est philippine, elle est aveugle.
Elle a appris le français en 3 ans, voilà. Sur les chansons d'Edith Piaf.
Elle a un visage assez disgracieux, c'est-à-dire qu'en réalité, ce qui est assez surprenant à la télévision, on ne cherche pas à cacher son handicap, on ne cherche pas à cacher ses yeux.
Non.
Voilà. Donc, ce qu'on peut retenir, c'est du gros show populaire, il y a des grosses ficelles, c'est pas forcément léger, mais c'est assez bon enfant. Et pour le coup, il y a un vrai regard sur la diversité, comme on ne le voit pas toujours partout à la télé. C'est-à-dire que c'est vraiment des gens de tous les âges, toutes les couleurs de peau, toutes les origines, tous les accents.
Mais c'est ce que je trouve très intéressant, parce que comme on a fait 140 auditions pour arriver aujourd'hui en finale avec 12 candidats, les 12 meilleurs selon le jury, j'ai eu l'occasion de voir vraiment des gens qui arrivaient de mondes différents, de cultures différentes.
De milieux sociaux,
de
très
milieux
différents.
Sociaux différents. Et c'est vrai que c'est impressionnant parce que c'est cette émission. Cette émission, elle est multiple talents, multi-âges. On a tout qui est représenté. Et pour ça, j'ai vraiment kiffé. J'ai vraiment kiffé.
C'est ça. Je vous dis, c'est du David Ginola dans le texte. Il a kiffé. Comment on dit en anglais? J'ai vraiment kiffé.
C'est qui le monsieur là?
C'est Ali Rebeilly. Il présente l'émission juste après.
Ah oui,
il vient juste
retard,
annoncer son sujet. Pas du
on
tout.
On est en retard. Regarde, il me regarde, il me fait les gros yeux là. Time.
Bon, alors la France a un incroyable talent. C'est demain soir. C'est sur M6. C'est du direct. C'est la finale. Vous recommencez l'année prochaine.
On va voir,
ok. Bon, bah, vous reviendrez.
Merci, Sonia.
Merci, David Ginola. Ali Rebeilly.
En tout cas, il m'a déçu en bien, David Ginola, parce que c'est un excellent animateur, je trouve.
C'est
vraiment.
Bon, bah, on s'installe, on continue l'instant même.
Moi, je m'en vais, c'est ça?
Non, pas du tout.
Je vais rester. Alors, ce matin, nous attendons toutes vos questions sur l'efficacité des médicaments contre le rhume, l'état grippal, la toux, les maux de gorge, sur l'efficacité des antibiotiques, sur les effets indésirables des médicaments, sur la qualité des génériques, 01 45 24 7000.
Vous savez que ça va s'entretuer au standard, hein. Allez, ce sera après les infos.